Trigger warning, cet épisode parle de violences sexuelles.
Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
C'est parti.
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, on parle de bande dessinée avec Anaïs Nin sur la mer des mensonges, consacré donc à l'autrice Anaïs Nin, écrit et dessiné par Léonie Bischoff chez Casterman, et on va en parler avec Pauline. Salut.
Salut.
Alors, Anaïs Nin est l'autrice américaine érotique et sulfureuse que l'on connaît. Elle a aussi été une diariste prolifique, c'est-à-dire qu'elle a tenu un journal intime, et on se demandait légitimement à quoi pouvait ressembler un roman graphique, puisque le sujet est assez croustillant. Alors justement, cette monographie éclaire les modalités de l'écriture chez Anaïs Nin, mais aussi ses débuts. Alors est-ce que tu peux peut-être d'abord nous parler de son parcours ?
Oui, pour donner quelques éléments biographiques, l'autrice donc Anaïs Nin est née en France en 1903, de parents d'origine cubaine et espagnole, du côté de son père, et française et danoise du côté de sa mère, et elle a vécu principalement entre la France et les États-Unis. Donc l'héritage culturel d'Anaïs Nin, il se déploie entre Cuba, New York, où elle va s'installer avec sa mère, ses frères et son cousin, avant d'arriver en France. Donc le père Joaquin Nin, lui, il est compositeur et pianiste, et il a quitté le foyer, il a abandonné la partie. Donc c'était visiblement un homme violent, et en tout cas, donc c'est ce qui est raconté dans la BD, il s'opposait à la carrière de chanteuse lyrique de la mère d'Anaïs Nin, Rosa Kulmel Nin, et je crois qu'il était d'ailleurs aussi opposé au fait qu'une femme soit artiste ou puisse simplement travailler. Donc charmant homme. Donc voilà, un autre élément qui m'a fait sourire dans la BD, donc Anaïs Nin a pratiqué assidûment le flamenco. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à Colette qui avait fait scandale sur scène. Elle a quitté l'école à 14 ans pour devenir mannequin. Elle a aussi été modèle pour des peintres. Puis elle a épousé un banquier avec qui elle a fréquenté le Paris artistique de Montparnasse et de Clichy. Elle écrit abondamment depuis l'enfance. Donc dans la BD, d'ailleurs, sa mère lui reproche parce qu'elle voudrait qu'elle l'aide aux tâches domestiques. Mais je crois que c'était pas vraiment les aspirations d'Anaïs Nin qui rêve d'écrire des livres.
Oui, justement, c'est à ce moment-là que la bande dessinée, qui s'appelle donc Sur la mer des mensonges, commence. C'est dans la partie des années 30, puisque Anaïs Nin débute vraiment dans l'écriture en rédigeant un essai sur l'auteur D.H. Lawrence, donc qui est l'écrivain de L'amant de Lady Chatterley, donc déjà un autre sujet assez croustillant. Cet essai a été publié donc en 1932. Et puis, évidemment, il y a ce journal au long cours qu'elle poursuit. Alors, celui-ci n'a été publié finalement que dans les années 60 et ensuite dans les années 80. Après la mort d'Anaïs Nin, on va également découvrir la version non expurgée du journal qui compte quand même plus de 35 000 pages au total. Donc effectivement, c'est un journal qu'elle tient depuis ses 11 ans, qui se divise en deux volets. Un vrai journal qui est secret, qui est non censuré, et un faux journal qu'elle va faire lire autour d'elle, notamment à son mari. Elle a commencé en fait l'écriture de ce journal intime sous forme de lettres écrites à son père, qui, tu l'as dit, avait abandonné sa famille, pour lui décrire les États-Unis, et au fil du temps, elle va décrire ses rencontres, ses aventures et ses pensées. Donc, comme le raconte très bien la bande dessinée de Léonie Bischoff, elle rêve surtout de fiction et elle va être donc connue et reconnue plus tard, et c'est d'ailleurs encore en cette qualité qu'on la connaît aujourd'hui, pour ses nouvelles érotiques qui vont être jugées pornographiques à l'époque. Alors le roman graphique entremêle des scènes de vie et des métaphores introspectives en utilisant des passages de ce journal fleuve comme trame. On écoute l'autrice et dessinatrice suisse de la BD en parler sur France Inter.
C'est quelqu'un que j'avais découvert d'abord à l'adolescence par des journaux très expurgés, donc des versions très remaniées, que j'ai redécouvert plus tard dans des versions un peu moins expurgées, et j'ai toujours eu une fascination pour elle parce qu'il y a énormément d'ambiguïté. On ne sait jamais quelle est la part de vérité, déjà parce qu'il y a plusieurs versions qui existent et parce qu'on sent bien qu'elle est tout le temps en train de raconter une sorte de version idéalisée de sa vie.
Oui, et donc l'autrice dit qu'on renvoie beaucoup Anaïs Nin à l'écriture érotique, mais ce qui l'a intéressée, enfin ce qui a intéressé Léonie Bischoff, en fait, c'est dans son journal comment elle parle de son chemin d'écrivaine, de ses interrogations et de son cheminement pour devenir une artiste. Et d'ailleurs, dans cette BD, on retrouve des aspects importants des revendications et aspirations féministes, même si Anaïs Nin ne se serait pas forcément décrite comme telle. Mais elle parle, par exemple, de l'écriture féminine et de la non-reconnaissance de son travail. Donc, par exemple, il y a une citation qui dit « Chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas. » Donc ça, dans la BD, c'est ce qu'elle dit à Henry Miller. Et elle écrit aussi « Je veux écrire comme une femme ». C'est quelqu'un qui a été tiraillé entre les convenances de son temps, son image de bonne épouse qu'elle essaie de conserver auprès d'un mari qu'elle aimait vraiment, visiblement, et ses aspirations plus profondes, son désir de liberté. Et donc, c'est ce thème du mensonge ou de double vie qui va irriguer la BD et qui donne son titre au roman graphique et qui va permettre à Anaïs Nin de vivre ses désirs. Et bon, il faut aussi souligner que son destin est en partie lié à un homme, hélas, qui va devenir son mentor intellectuel et sexuel avec l'écrivain américain Henry Miller, qui est donc expatrié à Paris, qui a décidé de se consacrer à l'écriture, mais qui n'a pas un sou en poche. Et d'ailleurs, il taxe de la thune à Anaïs Nin dans la vidéo. Et il n'a pas encore écrit ses grands romans dans l'époque qui est décrite. Donc, par exemple, Tropique du cancer, qui est une chronique de son quotidien parisien et de ses liaisons, qui sera interdit plus tard aux États-Unis car jugé obscène. Donc, heureusement, dans la BD, on parle aussi de la femme d'Henry Miller, June Miller, donc décrite comme libérée, droguée, bisexuelle, qui est une sorte de muse à la fois pour Henry Miller et pour Anaïs Nin, d'ailleurs. Donc, voilà, il y a ce triangle qui va se mettre en place, on va en reparler. Et donc, Henry Miller devient une sorte de soutien pour Anaïs Nin, qu'il va aussi désirer et séduire. Et inversement, celle-ci va relire ses écrits et le conseiller. Donc, il va y avoir ce dialogue entre eux. Elle va également explorer sa sexualité avec lui. Elle parle de leur rencontre dans ce son qu'on vous fait écouter.
Quelqu'un lui a donné mon livre sur l'art à salir et il a fait un commentaire qui d'ailleurs allait être assez prophétique. Il a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire si doucement, de choses si fortes. » Et lui, il avait fait, il avait dit avec douceur, il avait fait un article sur Buñuel d'une grande violence. Et alors moi, je me suis dit, je n'ai jamais vu quelqu'un écrire avec une telle violence et une telle passion sur un thème comme Buñuel qui m'intéressait. Alors quelqu'un l'a amené à la maison. Il avait d'ailleurs une liste de possibilités de dîner. Il avait une liste où il était sûr d'avoir un dîner. On lui avait donné mon nom. Il est venu dîner parce que c'était très important pour lui. Et alors après, nous sommes devenus très amis. Il a visité toute la maison. Il a été dire bonjour à ma mère. Enfin, il a aimé toute l'ambiance et il était très content. Et nous sommes devenus très amis. Il a commencé à m'envoyer des lettres, même pendant qu'il travaillait à Paris. De Paris à Louvain, je recevais des lettres de 40 pages sur son travail, justement, les livres qu'il avait besoin, le développement du roman. Et dans ces choses-là, je prenais toujours le parti de la femme. Enfin, je jouais le rôle de la femme. En dialogue avec lui pendant qu'il écrivait le...
Il préparait à ce moment-là le Tropique du cancer, n'est-ce pas ?
Oui, alors justement, pour arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire la découverte de la sexualité, il faut savoir qu'Anaïs Nin, donc tu l'as dit, s'est mariée à un banquier qui était aussi plus ou moins aspirant artiste. Donc c'est l'Américain Hugh Giler qu'elle appelle Hugo. Le couple s'est installé à Louveciennes, donc en banlieue parisienne, dans le sud-ouest de Paris. Et à ce moment-là, donc avant la rencontre avec Henry Miller, le couple est assez empoté. Aucun des deux ne s'y connaît en matière de sexualité. Ils se sont mariés vierges et finalement Anaïs Nin a été assez prude dans sa jeunesse. D'ailleurs, elle écrit « Il existe un érotisme auquel je n'ai pas accès ». C'est là justement qu'arrive Henry Miller pour jouer la partition assez stéréotypée de l'homme plus âgé et initiateur et qui donc va installer un triangle amoureux avec sa femme June, tu l'as dit, qui va obséder véritablement Anaïs Nin et tout ça va se jouer dans le dos du mari comme dans un mauvais vaudeville. Ensuite, tout au long de sa vie, Anaïs Nin aura beaucoup d'amants, plusieurs maris, pas d'enfant. Elle vivra donc une vie très libre, en tout cas pour l'époque. Et elle aura même plusieurs histoires avec ses psys. Et elle répond dans une interview en 1970 à cette configuration psychanalytique assez particulière.
C'est très vrai que les règles n'ont pas été tout à fait suivies. Mais comme je disais à quelqu'un à Paris, il ne faut pas blâmer l'analyste, il faut me blâmer à moi. Parce qu'une enfant qui a perdu son père est très préoccupée justement de séduire et de charmer tout le monde, parce qu'il faut qu'elle se prouve vraiment que ce n'est pas pour cette raison-là que le père est parti. Mm-hmm. Alors, ils étaient en face d'un danger.
Oui, c'est d'ailleurs assez injuste, je trouve, parce que son nom est quand même systématiquement accolé à celui de Miller, et elle est quand même souvent définie au travers de ses relations sexuelles avec des hommes. On n'est pas surprise, alors que, visiblement, elle a aussi aimé des femmes, donc effectivement June Miller, une histoire dont s'est inspiré le film Henry and June de Philip Kaufman avec Uma Thurman dans le rôle de June.
Before his novels shocked the world, before her diaries inspired a generation, they lived an adventure more erotic than any fantasy.
Annis, meet my wife June.
Mais bon, apparemment, il y a débat sur le fait qu'elles aient eu une liaison toutes les deux ou pas, ou si c'était juste romantique, on va dire, mais donc apparemment, les biographes sont pas d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, Anaïs Nin désirait et aimait des femmes. Et il y a aussi une relation, notamment avec la danseuse péruvienne Elba Huara, qui tournait à l'époque dans tous les théâtres parisiens dans les années 30, et dont elle a visiblement aussi été amoureuse, ainsi que de son mari. Visiblement, c'était l'habitude d'Anaïs Nin. Voilà, mais surtout, en fait, c'est quelqu'un qui a bousculé les convenances sur un plan littéraire, au-delà de son mode de vie. Par exemple, il y a l'autrice et traductrice Agnès de Sarthe qui a traduit des nouvelles d'Anaïs Nin. Elle l'explique, en fait, dans l'émission La Grande Table sur France Culture. Elle dit qu'en fait, quelque part, Anaïs Nin a été plus indécente, entre guillemets, et plus subversive dans sa manière d'écrire, dans son processus créatif, dans sa manière de décrire son cheminement d'écrivaine, que dans ses mœurs, qui étaient certes très libres et modernes pour l'époque, mais qui étaient aussi beaucoup liées à ce grand écart effectué par les femmes entre l'image sociale qu'il fallait conserver et la tentation de la séduction, mais qui était évidemment beaucoup liée à un besoin de validation masculine et à certaines normes de genre, on peut imaginer.
Cette façon qu'elle a de nous emmener dans la coulisse de l'écriture est extrêmement originale et elle est très très présente. Pour moi, c'est plus là-dedans, dans cet aspect-là de son écriture, que je vois une forme de d'innovation et d'indécence aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a presque plus d'indécence dans sa manière de décrire le processus créatif que dans sa manière de décrire les cuisses, les seins, les sexes, etc.
Oui, alors il y a une autre question qui est abordée dans la bande dessinée, c'est celle des violences, puisqu'on a accès directement sur la page à une psyché qui est assez tourmentée et ambivalente, comme je pense celle de beaucoup de femmes de l'époque, qui étaient placées effectivement dans une position sociale assez intenable, à la fois d'épouses et d'autrices, de femmes vertueuses forcées de composer avec leur libido. Et on voit dans la bande dessinée qu'Anaïs Nin parfois se scinde en deux personnages visuellement. D'ailleurs, elle écrit « Mes désirs sont trop puissants pour être ceux d'une bonne épouse. Parfois, je rêve d'orgie ou des baisers d'une femme. »
Oui, je pense que c'est important de préciser qu'on peut avoir une vision un peu glamourisée de la vie d'Anaïs Nin et de sa sexualité débridée avec ses amants. Mais je pense que c'est aussi une vie de violence, et notamment de violence sexuelle, qui est d'ailleurs montrée dans la BD de Léonie Bischoff. Donc elle est violée par son éditeur, harcelée, agressée sexuellement par son prof de danse, et elle dit qu'elle se laisse faire, je cite, par charité ou par compassion, pour, je cite encore, répondre au désir qu'elle aura éveillé. Donc on voit qu'il y a une forte intériorisation des violences et des attentes aussi de sa part, des attentes genrées. Et pour moi, d'ailleurs, la relation avec son cousin Eduardo, elle est aussi assez malsaine. Et je pense qu'on voit vraiment cette croyance, en fait, très ancrée socialement, que le désir féminin était quelque chose de dangereux et qu'il serait responsable des agissements des hommes. Et on sent que c'est quelque chose qui traverse Anaïs Nin, quelque chose qu'elle a intériorisé.
Oui, et d'ailleurs, un des aspects vraiment les plus perturbants de la bande dessinée, et sans doute de la vie d'Anaïs Nin, c'est la question de l'inceste et des viols commis par son père sur sa personne quand elle était enfant. Donc ça, c'est ce qui est suggéré. Et ensuite, à l'âge adulte, une relation incestueuse qu'elle décrit dans son journal, dans le tome qui est intitulé « Inceste », elle la décrit comme consentie. Apparemment, ce sont des passages qui sont très explicites dans son journal. En tout cas, elle écrit également le phénomène de dissociation traumatique, sauf que à l'époque, évidemment, on ne connaît pas la définition de cette notion, c'est-à-dire qu'elle se voit au-dessus de son propre corps, coupée de ses sensations. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut l'analyser avec le recul comme une relation d'emprise. Et d'ailleurs, peut-être, c'est quelque chose qui, dans la bande dessinée, manque parfois un peu de recul critique pour pouvoir relire aujourd'hui ces scènes avec les outils de compréhension des violences dont on dispose.
Ouais, je suis assez d'accord. Et pour parler de la réception de l'œuvre d'Anaïs Nin, l'artiste Sophie Tam a écrit sa biographie qui s'appelle Anaïs Nin, Genèse et Jeunesse. Et dans un article sur Slate, elle explique qu'en fait, son succès, elle le doit avant tout aux lectrices, donc ces femmes qui se sont reconnues en elle. Et donc, je la cite, elle se rendait compte en la lisant que leur souffrance n'était pas purement personnelle, mais collective, sociale, c'est-à-dire qu'elles souffraient non pas parce que, comme on voulait leur faire croire, il y avait un problème avec elles et leur personnalité, mais à cause de problèmes structurels de la société. Donc ça, c'est son analyse, et elle dit aussi « Ce journal, c'est la parole authentique d'une femme qui luttait pour sa libération personnelle, et ça, c'est une grande révélation des années 1960. » Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très moderne, en fait, dans ce qu'incarne Anaïs Nin, et c'est aussi le reflet de l'évolution du féminisme, je pense, au cours du temps, qui mêle à la fois le constat des obstacles faits aux femmes, et l'envie d'autonomie, le désir d'explorer sa sexualité. Et apparemment, des féministes lui en ont voulu à l'époque parce qu'elles avaient lu son journal et ses nouvelles en se disant qu'elle était totalement libre et qu'elle voulait s'inspirer d'elle. Et quand elles ont compris qu'elle était toujours mariée en écrivant notamment son journal non censuré, apparemment, elles le lui ont reproché.
Oui, en tout cas, c'est intéressant de constater que la publication du journal va être concomitante ou en tout cas annoncer vraiment la deuxième vague du féminisme dans les années 60 et 70.
Et donc, qu'est-ce qu'on en pense, Clémentine, de cette BD ?
Alors, moi, je dois avouer à mon grand désespoir que je connais très mal Anaïs Nin. J'ai simplement lu quelques nouvelles érotiques du recueil qui s'appelle Vénus Erotica, donc qui est paru en 1977. C'est des nouvelles qui avaient été écrites pour $1 la page et qui étaient initialement une commande faite à Henry Miller, que celui-ci a donc refourgué à Anaïs Nin, et il a eu bien raison. Et moi, j'ai toujours voulu lire son journal et je n'ai jamais fait. J'avoue que la taille aussi de ce pavé peut être un peu impressionnante. À ce titre, je trouve que cette bande dessinée, en fait, est une très bonne introduction à son œuvre et à sa vie. Il faut dire que visuellement, c'est vraiment somptueux. Donc, tout est dessiné au crayon à mine, au crayon de couleur. C'est un vrai tourbillon de couleurs avec des esquisses. D'ailleurs, on peut supposer que c'est à l'image de la maison qu'habitait Anaïs Nin à Louveciennes, dont chaque pièce était colorée. C'est une maison qui existe toujours, mais malheureusement, elle ne se visite pas. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ce sera un musée, je ne sais pas. Après, il faut rappeler que tous les éléments les plus clichés sont là, mais ils ont existé dans la vie d'Anaïs Nin. On a le mentor, la muse, le triangle amoureux, l'homme plus âgé. Voilà, mais je trouve que la bande dessinée retranscrit assez bien cette période des années 30 avec son effervescence intellectuelle, où on sent bien qu'après l'embellie de la belle époque et des années 20, qui, une parenthèse qui a été relativement permissive, on sent que l'avenir s'annonce quand même plus conservateur. En tout cas, moi, le livre m'a fait penser à d'autres parcours d'artistes, comme Kiki de Montparnasse qui avait été croqué par Catel. Je trouve aussi que les observations d'Anaïs Nin sur le couple sont hyper bien vues. Par exemple, voilà, le fait de vivre à travers le regard masculin, donc le male gaze quand on est une femme. Quand elle dit aussi « l'amant devient l'enfant », je trouve que ce retournement du couple est assez bien vu. Et surtout, la bande dessinée ne slut-shame pas le fait que parfois elle se tape quand même tout ce qui bouge. Et voilà, on ne porte aucun jugement sur la sexualité parfois débridée d'Anaïs Nin, la sexualité sérielle qui était aussi celle des hommes et qui est toujours celle des hommes souvent aujourd'hui, et ce n'est pas vu comme un problème, donc tant mieux. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Oui, donc comme toi, Mes premières impressions, c'est le côté immersif et chatoyant des dessins. Les couleurs sont très belles. La mise en scène aussi du double d'Anaïs Nin dont tu as parlé, donc son personnage se dédoublait dans les images. Et c'est une sorte de deuxième femme, en fait, qui la pousse à écouter ce qu'elle ressent et à s'écarter de la norme. Donc ça, j'ai bien aimé cette mise en scène-là. Je trouve ça intéressant de dépeindre l'ambivalence du personnage et le côté un peu schizo à vivre, en fait, dans cette double mascarade de la vie conjugale de femme mariée et la vie d'artiste polyamoureuse, et le fait qu'elle se voit elle-même comme fragmentée. Donc à un moment, il y a même, enfin c'est peut-être un peu cliché, mais c'est quand même joliment dessiné, il y a un miroir éclaté sur le sol pour figurer le fait qu'elle se sente justement morcelée par tous ces aspects de sa vie. Et j'aime beaucoup les pages sur sa relation avec June Miller, le désir qui circule entre elles. Et il y a aussi quelques pages biographiques sur son enfance qui reviennent en arrière, que j'ai aussi trouvé assez abouti. Cependant, est-ce qu'on a quelques réserves sur cette BD ?
Oui, en effet. Alors moi, c'est une remarque d'ordre plus général. Je pense que c'est toujours compliqué de relire l'œuvre d'une femme artiste à l'aune de sa biographie. Bon, disons que dans ce cas précis, ça s'applique davantage puisqu'il y a un journal, même si ce journal va souvent réécrire la réalité. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui a tendance à me déranger de manière générale. Par ailleurs, je trouve qu'il y a un problème de source dans cette BD, puisqu'on n'entend pas forcément résonner l'écriture d'Anaïs Nin et qu'on ne sait pas nécessairement si les paroles rapportées viennent directement de son journal intime ou si c'est une réécriture par l'autrice, ce qui n'est pas un problème, mais je pense qu'il faudrait peut-être le préciser quelque part.
Ouais, c'est vrai que c'est pas clair. Ouais.
Et visuellement, ça m'a beaucoup plu, mais je pense qu'on peut aussi être repoussé par l'aspect très floral, parfois trop décoratif, très ornemental du style. Alors évidemment, c'est une référence picturale à la période, mais parfois on a l'impression d'être dans un papier peint un peu art déco, art nouveau. Je pense aussi que dessiner l'écriture, retranscrire l'écriture sous forme de dessin, c'est extrêmement difficile. Donc il y a des pages qui montrent le travail d'Anaïs Nin avec Henry Miller, entouré par des feuilles qui volent. Je trouve que c'est parfois un peu maladroit et que l'image, parfois, est une illustration un peu trop littérale du récit ou des paroles. Tu parlais justement d'un miroir brisé. Pour moi, ça fait partie des clichés visuels que j'aimerais bien éviter. Mais voilà, ce sont de toutes petites réserves et je trouve que la bande dessinée vaut quand même la peine. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Le dispositif du double était plus intéressant déjà avec ce deuxième personnage qui représente Anaïs Nin avec une chevelure complètement multicolore et immense. C'était peut-être une métaphore qui marche mieux dans la BD pour décrire le côté grand écart entre ces existences, je pense. Oui, donc moi, même si je trouve la BD très belle et aussi très accessible, ce qui est important, je regrette que les hommes prennent autant de place dans cet ouvrage. Je sais que ça reflète une partie de la réalité et que c'est sûrement à l'image aussi du journal d'Anaïs Nin qui parlait beaucoup de ses rencontres intellectuelles comme amoureuses, notamment avec des hommes, mais aussi parce qu'à l'époque, je pense que le pays artistique était beaucoup colonisé par les hommes, forcément ça a joué. Mais en tout cas, moi, ce sont plutôt les tâtonnements d'Anaïs Nin dans le processus d'écriture qui m'intéressent et qui d'ailleurs intéressent aussi l'autrice Léonie Bischoff. Mais pour moi, il y a un peu trop de place donnée au ballet masculin et du coup, moi j'aurais plus aimé plonger encore plus en fait dans son processus créatif. J'aurais bien aimé explorer l'époque d'après avec les réactions du public quand elle publie ses nouvelles érotiques.
Bah attends, il y aura peut-être une suite. Hein.
Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus sur le contexte de la publication, par exemple, de Vénus Erotica.
Toi, tu connais mieux ces œuvres que moi, je crois.
Bah, en fait, moi, j'ai surtout lu des recueils de nouvelles, donc Vénus Erotica et Les Petits Oiseaux, qui ont tous les deux été publiés dans les années 70. Mais je les ai lus assez tôt, en fait, à l'adolescence, et ça m'a pas mal marqué.
Ah ouais.
Il y a des trucs très violents, notamment dans Les Petits Oiseaux. Il me semble que la première nouvelle, c'est une nouvelle de scène qui, à mon sens, est, si je me souviens bien, qui est une scène pédocriminelle, qui m'avait dégoûtée. Et ce qui m'a vraiment plus dans ces recueils, c'est les nouvelles qui parlaient justement de bisexualité féminine. Donc je me souviens qu'il y a des scènes où la narratrice, qui est peut-être Anaïs Nin d'ailleurs, fait l'amour avec des femmes, par exemple, il me semble, dans un taxi, où je me souviens qu'il y a des femmes qui se caressent sous leur manteau de fourrure. ou alors des femmes en vacances, enfin qui font l'amour en cachette, et c'est assez explicite. Et je pense que c'était complètement scandaleux et avant-gardiste à l'époque. Moi, c'est plutôt cette audace que j'ai envie de retenir de l'œuvre d'Anaïs Nin personnellement, et c'est ce qui m'a marqué quand je l'ai lu adolescente.
Bon, en tout cas, vous pouvez trouver cette bande dessinée en click and collect dans vos librairies près de chez vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long où on parlera de médecine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les références de l'épisode donc sur Anaïs Nin et sur cette bande dessinée de Léonie Bischoff dans les descriptifs de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Salut, merci Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Pauline Verduzier.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, montage et coordination Achille Tola.